Bonjour à tous, ici Lestat, alias Napoléon Bonnétique, car j'ai beaucoup d'éthique. Neuvième partie, enfin en tout cas neuvième épisode. On n'a pas le droit de rire, non, c'est très sérieux. Vous le savez, énormément d'éthique. Donc on est, je pense, au neuvième épisode de la campagne Les Enfants du Fleuve. Et juste avant qu'on commence, je voudrais partager un truc quelques secondes avec les auditeurs. Il commence à y avoir pas mal d'informations sur les historiques de chacun, les événements et tout ça. Et donc, on a mis en place une chronologie que je vous montre. Et je vous invite donc à lire ça. Je ne vais pas vous la lire, hein. Faites pause et lisez. Donc c'est moins 33, moins 21, c'est par rapport à la guerre des trois couronnes, qui est zéro, si vous regardez là, traité de Dante-Lacassène, la fin de la guerre des trois couronnes. Et je vous invite à lire tout ça. Donc 1, 3, c'est par rapport à l'an 0, 4 étant le présent. Ça vous permet de savoir à peu près les différents événements qui ont été évoqués au cours de cette campagne. Peut-être que ça vous remettra les idées au clair. En tout cas, je l'espère, ça commence à faire beaucoup. Parfait. Sans plus attendre, lançons cette partie qui sera sous le signe du bisounours. C'est un nouveau signe astrologique. Voilà, c'est une partie tout en gentillesse et en bienveillance.
Là
Voilà.
là. Quel
Je
mensonge.
m'attends au pire.
Mais non, arrêtez. Pas du tout, pas du tout.
Non, mais tu nous auras pas comme ça, on est déjà allé dans le bois. Hein. C'est
Ah,
ce que c'est.
mais
C'est ce
non.
qu'on va aller voir.
Et vous n'y êtes pas allé en plus parce que vous avez été pleutre. C'est tout. Voilà, c'est bon.
On n'a
On a
pas
fait
été
une campagne
pleutre, on
entière
a
sans
été.
le truc avant. Hein.
Sans transition, là les auditeurs commencent déjà à s'ennuyer parce que vous parlez trop et voilà. Donc allons-y, allons-y.
Mais qui
Voilà.
supporte pas de.
Vous êtes à la veille de votre départ avec les patrouilleurs en direction du bosquet de Valérian. Enfin, en tout cas, proche sur la route, là où votre carrosse a été attaquée. Vous êtes tous dans l'auberge appelée la Table de Valérian, et vous dormez tous, ou presque. Balian, surtout, tu vas profiter de cette dernière soirée de repos. Tu te remets difficilement de ta blessure dans le carrosse. Et deux personnes parmi vous ont décidé de veiller un petit peu plus tardivement. Il n'y a plus grand monde à la table de Valérian. C'est assez calme. Il est très tard. Ces deux personnes, c'est Chloé et Gauvin. Vous êtes attablés face à face. Mais pour quelle raison? Je vous laisse la main.
Bien, un peu plus tôt dans la soirée, j'ai vu que Chloé tirait des cartes. Et du coup, bah, j'étais intéressé par ça. Donc, après avoir pris un bon bain, m'être entre guillemets relaxé. D'ailleurs, Chloé, quand tu vois Gauvin revenir, c'est peut-être la première fois que tu le vois avec les cheveux attachés en queue de cheval, ce qui lui donne un air un peu plus noble, on va dire. Avec ses vêtements, je parle. Il a l'air d'être moins facile, on va dire.
Moins facile.
Ouais.
Ok. Donc du coup là, en fait, t'es venu me rejoindre quand je faisais mon tirage à moi, c'est ça? Juste pour quelqu'un.
Ouais.
Ok.
Disons que tu viens de t'attabler devant elle alors qu'elle a ses cartes sur la table. Je pense que c'est à propos.
Ok. Mais du coup, je vais cacher mes cartes. Enfin, je vais récupérer mon tirage pour moi. Et je vais te regarder. Bah, clairement, je vais attendre de voir ce que tu viens faire ici.
Petite
Bah,
parenthèse,
déjà, je ramène
Stanislas, je suis
deux.
navré de te couper. Stanislas, toi, tu es dans ta chambre. Tu ne dors pas non plus. Et tu regardes pas la fenêtre. Le tonnerre gronde, il pleut. Et tu te dis que si ça ne s'améliore pas, ça va pas être une expédition sous de bons auspices. Ton pessimisme habituel a raison de toi pour cette nuit. Voilà, je tenais à le préciser.
Alors, d'un point de
C'est
vue
trop bien.
optimiste, le trajet qu'on a fait en portant Baléon, du coup, va paraître beaucoup plus joli que celui qu'on va faire.
Voilà, c'était la petite parenthèse. Gauvin, je te relaisse la main, excuse-moi.
Oui, donc déjà avant de m'attabler, je prends deux bières et seulement après je m'attable.
Merci.
De rien. J'ai vu que tu tirais les cartes.
T'en fais. Ça m'arrive.
Est-ce qu'il serait possible d'en profiter?
Pour
J'avoue
toi?
qu'avec tout ce qui nous arrive, je suis un petit peu curieux de ce que l'avenir nous réserve.
Pour toi ou pour tout le monde?
Non, pour moi, principalement.
Tu la vois récupérer, enfin, tu vois que je récupère mes cartes et que je commence à les battre. Et en fait, je vais les poser. Après quelques secondes, je vais les poser devant toi.
Comment ça marche alors? Il faut que je pose une question?
Laissez-vous guider. J'ai déjà besoin de savoir si c'est pour vous ou si c'est pour vous et vos amis que vous voulez que je lise l'avenir ou le passé.
C'est un peu des deux. Mais disons que ça nous concerne tous, ouais. J'ai plusieurs questions. J'en ai des tonnes qui n'arrêtent pas d'aller et venir dans mon esprit, dont je ne peux faire abstraction. Alors si jamais je pouvais avoir des réponses pour passer à autre chose, j'avoue que ce serait pas de refus.
Très bien. Parlez-moi un peu de... Dites-moi un peu ce que vous voulez savoir de manière générale. Qu'est-ce qui vous intrigue vraiment, Gowa?
Eh bien, je me demandais si vos cartes pouvaient me dire qui j'étais réellement. Est-ce que je suis Amarius, cet homme qui a arpenté pendant 32 ans la Terre, dont j'ignore absolument tout, mais pour qui je dois porter des péchés? Ou alors je suis Gauvin, qui au final n'a même pas 10 ans d'existence, mais qui est tout aussi capable d'atrocités. Est-ce qu'elles vous disent, si j'ai volontairement égoïstement abandonner mon frère pour sauver ma peau? Est-ce qu'elles vous disent jusqu'où je devrais aller pour un jour le retrouver? Est-ce qu'elles vous disent si notre aventure a une quelconque chance de succès, ou bien si ce n'est que le barreau d'honneur d'hommes brisés cherchant à donner un sens et un but à leur vie? Et plus important que tout, est-ce que vos cartes vous disent si nous suivons inconsciemment la voie que le joueur de flûte nous a tracée? Sommes-nous toujours ces pantins? Ça, j'aimerais bien savoir. Et tu vois que, à mesure que Gauvin parlait, tu sentais bien la colère gronder et monter, et un profond dégoût s'afficher sur son visage. Mais le dégoût, c'était plus pour lui-même, en fait.
Eh bien, Gauvin, les cartes posent plus de questions qu'elles ne répondent vraiment, vous savez. Elles peuvent vous aiguiller vers des questions qui vous permettront, vous, de répondre, mais elles ne vous diront jamais ce que vous êtes ni ce que vous devez faire. Mais je peux vous guider, si c'est ce que vous souhaitez.
Eh bien, c'est toujours ça de pris.
Navré. Vous devrez couper avec votre main gauche et tirer la première carte.
Ok. Tu vois que Gauvin met sa main gauche par-dessus le paquet, hésite une fraction de seconde, et coupe et prend la première carte.
Deux petites secondes. Ah, désolé. La première carte que tu tires, c'est une balance, en fait, qui apparaît dessus. Elle prend un moment pour te regarder, et en fait, enfin, je prends un moment pour te regarder. Intéressant, surtout pour quelqu'un dans votre genre. Généralement, la balance, c'est la représentation d'un combat intérieur ou d'un équilibre. Vous savez, comme cette histoire des deux loups qui se battent dans chacun d'entre nous. Celui qui est bon et celui qui est mauvais. C'est exactement ce dont vous me parliez. Il y a à Marius et Gauvin, j'imagine. C'est à vous de décider s'ils doivent se battre. C'est à vous de décider qui doit gagner. De décider ce que vous voulez ou qui vous voulez être. Allez-y, deuxième carte. À moins que vous vouliez arrêter, bien entendu.
Non, absolument pas. Je tire la deuxième carte.
C'est amusant. Le flûtiste. En fait, c'est un musicien qui apparaît du coup sur la carte. Soyez honnête. Le flûtiste, n'est-ce pas? Eh bien, si on le met en lien avec la balance, on peut dire que... c'est celui que vous cherchez. Est-ce que vous le cherchez parce qu'il est ce que vous désirez le plus ou parce qu'il est la clé de ce que vous désirez?
Parce qu'il en est la clé.
Encore une fois, Gauvin, c'est ce que je vous dis. Je n'ai pas les réponses pour vous. Bon, bref, tu vas tirer la troisième, j'imagine, du coup.
Ouais.
Tirez-en deux.
Ok, je m'exécute.
La première que tu vas tirer, du coup, c'est l'arbre. Enfin, c'est un arbre particulier, c'est un arbre mort. Et là, je te regarde longuement, vraiment très très longuement, et... je ne m'attendais pas vraiment à cette carte-là pour vous. Vous avez une bonne maîtrise de votre apparence. N'est-ce pas?
Qu'est-elle censée dire?
L'arbre mort signifie la décrépitude. Et vu votre état physique actuel, clairement il ne s'agit pas de ça. C'est intérieur, n'est-ce pas? Enfin, la question ne se pose pas vraiment, non? Vu vos questions, j'imagine que c'est ça.
Effectivement.
Vous utilisez une apparence joyeuse et joviale pour cacher une fragilité terrible. Une fragilité qui, d'après la seconde carte que vous avez tirée, le damné, et là, elle tape sur la carte d'à côté, m'indique que vous êtes allé loin dans la découverte de votre fragilité, Gauvin. Peut-être trop loin. Peut-être que vous avez voulu aller trop loin. Du coup, sur les... Si jamais tu... Je continue le tirage, hein, si jamais tu...
Vas-y.
Du coup, elle te demandera... Enfin, je vais te demander de tirer deux autres cartes.
Je le fais.
La rivière. Jusque-là, rien de ce que vous ou vos amis ne m'a raconté n'a été faux, vraisemblablement. Généralement, c'est une bonne carte. Elle représente la vie. Mais si on la met en contexte avec vous, on peut se demander ce que c'est. Est-ce que la rivière est votre but? ou est-ce que c'est votre chemin? Alors, Gauvin?
Jusqu'à maintenant, ça a plutôt été notre chemin. C'est par la rivière que nous avons disparu, c'est par la rivière que nous sommes revenus. Et c'est par le fleuve que nous naviguons pour trouver nos réponses.
Vous êtes bien loin du fleuve actuellement.
Actuellement, oui. Mais je suis sûr que nous y retournerons un jour ou l'autre.
À n'en pas douter. Du moins, c'est ce qu'indique votre deuxième carte, la roue de la fortune. Le destin en soi. Vous êtes intimement lié à toutes ces choses. Une dernière carte.
Allons-y.
Et à ce moment-là, tu es surprise toi aussi, Chloé. La carte que tu tires est une carte particulière que tu tires systématiquement lorsque tu lis les cartes pour toi-même. Sauf que cette fois, tu ne les lis pas pour toi-même, mais elle apparaît néanmoins. Lorsque tu lis les cartes pour toi, il y en a toujours une qui apparaît retournée. Tu as tout essayé, tu as rebattu les cartes, tu as vérifié ton jeu. À chaque fois que tu les tires pour toi, une carte est retournée. Et elle montre donc le dos des cartes, le dos de la carte qui apparaît d'ailleurs sur toutes les cartes de ton jeu, à savoir un œil unique. Sauf que cette fois, cette carte retournée apparaît lors de la lecture pour Gauvin. Et un peu frénétiquement, tu commences à assembler les cartes restantes du jeu selon une méthode que tu connais qui te permet d'éclaircir un peu la lecture du tirage de Gauvin. Cartes qui se lient entre elles, etc. Et tu constates une chose encore plus troublante, c'est que le dos de la carte, cette carte retournée, cet œil unique, est lié, quoique de manière assez indirecte, mais tout de même, à la carte du flûtiste.
Ok. Comment ça, elle est liée à la carte du flûtiste?
Le reste des cartes, qui est disposé stratégiquement selon les connaissances de lecture de cartes, indique un lien avec, mais un lien indirect. Okay. Comme un contournement.
Alors, vous aussi? Le destin est donc vraisemblablement assez capricieux, mais il sait ce qu'il fait. Moi aussi, je la tire tout le temps, celle-ci.
Et qu'est-ce qu'elle veut dire?
Elle signifie... Je peux, Jason, ou pas?
En tout, tu sais pas ce qu'elle signifie, justement. Normalement. Tu peux en avoir une interprétation, mais normalement, le dos des cartes n'est jamais utilisé.
Que j'en pensais que quelque chose nous est camouflé simplement. Quelque chose que peut-être on aurait dû voir, qu'on pourra découvrir plus tard. Mais c'est une généralité, quelque chose que je pourrais dire à n'importe qui pour noyer le poisson si vous voulez tout savoir. Est-ce que j'essaie de me le dire pour y croire? J'en sais rien.
Ou alors ça veut peut-être dire que nos deux destins sont liés, si vous tirez systématiquement cette carte.
Ça, je le savais avant de vous faire le tirage revenant. Mais vous vous en doutiez aussi. Sinon, on ne se serait jamais croisés. Comment est-ce que j'aurais pu tomber sur les deux personnes qui ont tué toute ma famille si le destin n'avait pas eu l'ironie de le faire? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas vraiment mon destin dont vous voulez parler actuellement. C'est le vôtre. n'est-ce pas? Les choses sont en mouvement autour de vous. Et rien n'est scellé. C'est à vous de décider ce qu'il adviendra de ce que vous êtes, ce que vous deviendrez, de ce que vous faites. Mais il y a énormément de choses qui ne collent pas dans votre lecture. Énormément de choses. Et tout est très sombre. Mais vous vous en sortirez. Comme toujours, n'est-ce pas?
Et alors que tu disposes le reste des cartes, tu te rends compte qu'il y a autre chose qui ne colle pas. Tu termines ton jeu de cartes, et tu te rends compte qu'il te manque une carte. Le compte n'y est pas.
Ah. Oubliez ce que je viens de vous dire. Si je n'ai pas toutes mes cartes, ça n'a aucun intérêt. Un tirage est forcément faussé s'il en manque une. Et il semblerait que ce soit le cas.
Ah. En parlant de ça... Finalement, je crois que j'aimerais bien aussi parler de votre destin. Ça m'intéresse un petit peu.
De mon destin ? Si je faisais partie de ces personnes qui savaient où elle allait, je ne serais certainement pas ici.
Non, mais vous avez des choix à faire, comme tout le monde.
Mm-hmm.
Vous venez de me le dire. C'est à moi de faire les choix. Bien, ça va être la même chose pour vous. Vous avez menacé mes amis.
Ouais.
Vous les avez menacés. Et ça, je ne le tolère pas. Alors, on va dire que c'est parce que vous nous avez pris pour quelqu'un d'autre. Ce qui vraisemblablement est le cas. Ces personnes qui ont tué votre famille, ils ont la même apparence que nous, mais ce ne sont pas nous.
Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Ce que je veux dire, c'est un peu plus simple. On va repartir sur de très bonnes bases. Et si vous voulez trouver la vérité à propos des assassins de votre famille, de celui qui a fomenté tout ça, je me ferai un plaisir de vous aider. Je ferai tout pour vous aider. Mais la prochaine fois que vous menacez l'un de mes amis, et là du coup, j'ouvre mon veston et je sors la carte qui manque. Et je la pose sur la table. Et tu vois que c'est la carte du pendu. Je la pousse vers toi. Eh bien, disons qu'il n'y aura pas de prochaine fois.
Déterminez si vous me menacez ou si vous essayez de vous lier d'amitié avec moi.
Eh bien, disons que...
Elle te dit ça avec un grand sourire, en fait.
Mmh. Hein. Ouais. Moi, par contre, je souris absolument pas, et tu vois que Gauvin est aussi capable d'être terriblement froid quand il le veut. Eh bien, disons que moi aussi, je suis capable de faire des prédictions. Parmi toutes les cartes qui sont tombées dans le chariot, il a fallu que ce soit celle-là que je ramasse.
Ça en dit plus sur vous que sur moi, Gauvin. Mmh.
Voyons ça comme un signe du destin.
Mm-hmm.
En tout cas, je vous la rends. Cette carte, je l'ai gardée simplement pour être sûr qu'elle n'apparaisse pas dans mon tirage. Je ne la supporte pas.
Et pourtant... Quoi qu'il en soit, vos amis sont sains et saufs, et je n'ai pas l'intention de les tuer. Il m'apparaît plus que clairement que j'ai besoin de vous et que vous avez des réponses. Ou que du moins, si vous ne les avez pas encore, je vous les aurai plus tard. Balian a perdu sa fille, qui était ma meilleure amie à cause du flûtiste. Je vous ai croisé certainement à cause du flûtiste. Je n'ai aucun intérêt à vous perdre de vue pour le moment.
Et puis de toute façon, je ne peux pas vraiment retourner chez Déméter dans l'état dans lequel je suis actuellement. Sans rien. Ce serait ridicule, non ?
Effectivement.
Je suis une opportuniste, Gauvin, vous le savez, vous me connaissez. Vous êtes un très bon juge, n'est-ce pas ? Vous savez que je n'attaquerai pas vos amis maintenant. Et je ne vous attaquerai pas, vous non plus, peu importe ce que vous avez fait et ce pourquoi vous pensez que vous devriez payer.
Je vous propose que cette lecture de cartes se termine. À moins que vous ayez d'autres choses à ajouter.
Non, c'est tout.
Parfait. Isaac. Isaac.
Oui.
Tu es chez toi. À Hamelin. Tu es en train de manger. Le dîner, sans doute. Tu es avec tes parents. Tu es jeune, enfant même. Tu vois ton père et ta mère. Un feu ronfle dans l'âtre. Tu te sens bien, serein, protégé, malgré ta jeune vie. Ton père te sourit. Et puis, quelque chose l'intrigue par la fenêtre. Il se lève, te pose la main sur l'épaule et va regarder à travers cette fenêtre. Fenêtre à travers laquelle tu peux voir des reflets orangés. Cela te trouble. Autant que cela semble troubler d'ailleurs ton père, comme tu peux le voir à l'expression de son visage. Il se tourne vers toi. Il a l'air soucieux. Veille sur ta mère, Isaac. Je vais voir ce qui se passe. Il embrasse sa femme. Ne t'inquiète pas, Isaac. Il ouvre la porte et il sort. La porte se referme. T'inquiète pas, mon grand, ça va aller. Tu entends une clameur à l'extérieur. Que fais-tu ?
Je regarde par la fenêtre.
Tu vois des flammes. Du feu. Isaac ! C'est ta mère qui t'appelle.
Et maman, y a du feu dehors. Qu'est-ce que... Je vois des gens ou pas ?
Oui, des silhouettes qui courent, des ombres à travers les flammes, rien de plus pour l'instant.
D'accord.
Le visage de ta mère a changé complètement, elle a l'air sévère, accusatrice presque. Eh bien Isaac, qu'est-ce que tu attends ? Va donc trouver ton père ! Ne l'abandonne pas comme ça !
D'accord maman, j'ouvre la porte.
Tu sors à l'extérieur, dans les rues de Hamelin. Celles-ci sont ravagées. Les bâtiments brûlent, des gens courent, fuient, se font attraper par des silhouettes armées de haches, de couteaux, se font tuer sans doute. Puis sur les pavés qui ruissellent de sang. Tu te sens fragile, impuissant, petite forme que tu es. Et tout au bout de la rue, au loin, il te semble reconnaître une silhouette familière, celle de ton père, mais il disparaît à un coin de la rue. Que fais-tu ?
Je cours en disant « Papa !»
La voix ne porte pas, ou très peu, couverte par tous les cris autour de toi, les rires narquois, les cris agonisants. Tu te sens véritablement terrifié, impuissant. Tu marches jusqu'au bout de la rue et tu sors de la ville. Chose étonnante, tu te retrouves dans une clairière. Et derrière toi, il n'y a plus de ville. Il n'y a qu'une forêt dense. Mais tu entends toujours les mêmes clameurs, les mêmes cris. Que fais-tu ?
Je crie... Papa ! Papa ! T'es où ? Il faut rentrer !
Et j'en cours. Une femme est même stoppée net dans sa course, dans sa fuite, par une hache plantée dans son dos. Elle tombe. Soudain, un jeune homme paniqué court et il te frôle. Et par réflexe, tu le saisis fermement par le bras pour le retenir. Il lève les yeux dans ta direction. J'ai bien dit, il lève les yeux dans ta direction. Il est terrorisé. Et tu le toises à présent de toute ta hauteur. Tu es adulte, tu te sens fort, inflexible, et tu ne ressens absolument rien pour la pauvre âme en face de toi. Tu as un couteau dans ton autre main. Que fais-tu ?
Je lâche son bras. On est d'accord que je suis moi. Hein.
Je ne sais pas, à toi de me dire.
Oui, je lâche son bras. Je regarde, est-ce que j'ai du sang sur ma lame ? Est-ce que j'ai du sang sur mes mains ?
Oui. Ta lame est couverte de sang, tes mains aussi.
Je lâche ma lame et je crie « Papa, t'es où ?»
La voix qui résonne est celle d'un adulte. Le jeune homme qui t'a vu ne comprend pas. Il recule, fuit et il prend une hache en plein milieu du sternum. Un peu plus loin, tu vois que des poteaux ont été plantés dans le sol. Et des personnes semblent y être attachées. Et alors que tu t'approches, tu vois qu'il y en a vraiment beaucoup. Certaines sont mortes, mais la plupart sont en vie, attachées. Et tu reconnais, accroché à l'un de ces poteaux, la silhouette familière de ton père. Que fais-tu ?
Il a l'air en vie ou...
Il a l'air, il semble respirer.
J'essaye de le détacher.
Tu t'approches, tu te rends compte qu'il est humilié dans sa nudité. Il te regarde d'un air accusateur. Ne m'approche pas !
Mais...
Ne papa... t'approche pas ! Tu n'es pas mon fils ! Tu n'es pas mon fils ! Comment as-tu pu faire ça ? Tu n'es pas mon fils. Et il te crache dessus.
Mais c'est... C'est moi, Isaac, ton fils. Maman est à la maison, elle nous attend.
Tu n'es rien. Tu n'es qu'un assassin. Et à côté de toi, tu sens une main sur ton épaule. Face à toi, il y a un jeune homme. Il t'est familier. Sur son cou, il y a le signe de la Gorgone tatoué au fer rouge. Il te tend, justement, un fer chauffé à blanc. Et d'un geste du menton, il montre ton père. Et il te tend le fer chauffé à blanc. Que fais-tu ?
Je refuse de prendre le fer et je le repousse.
Il ne semble pas s'en offusquer. Il se retourne vers ton père et il lui place le fer chauffé à blanc en plein milieu du torse.
Ah si.
Ton père hurle.
Je peux faire quelque chose ou pas ?
Tu peux agir, vas-y.
Bah, j'essaye de le saisir, de l'empêcher de, voilà, de saisir la personne, de t'enlever le ce fer rouge.
Tu le saisis et c'est un jeune homme lambda, ce n'est plus lui, c'est un autre, soudainement. Et derrière toi, tu sens une présence. Juste derrière toi.
Je me retourne.
Tu te retournes, tu te retrouves nez à nez avec le jeune visage de Chloé. Tu sens la pointe d'une lame sur ta gorge. Le reste n'est qu'un flot de sang. Ta nuit aura été mouvementée. Mais maintenant, tu fais route vers le bosquet de Valérian avec tes compagnons, Chloé et les patrouilleurs. Vous êtes tous là. Stanislas, tu es à côté de Balian. Il préoccupe de son état, même s'il semble vouloir aller de l'avant.
Oui, bien sûr, je me préoccupe de son état, oui.
Balian, comment tu te sens ?
Vu l'état dans lequel je suis, c'est j'ai un peu de mal à me déplacer, en fait, mais bon... J'ai la volonté, en fait, pour essayer de me mettre debout et de les aider. Quoi.
Très bien. À côté de toi, Balian...
Je claudique un peu, quand même.
À côté de toi se tient, en plus peut-être d'autres patrouilleurs, Lothar, le second des patrouilleurs. Le second du capitaine Vesper... qui fait partie des disparus. Tu le connais. C'est un vaillant patrouilleur, loyal. Tu n'es pas ami avec lui, mais tu l'as déjà côtoyé, étant bûcheron à Contrebois. Vous pensez que vous allez tenir, Balian ? Là où nous allons, il peut se passer beaucoup de choses.
Il faudra bien. Je suis un peu handicapé, j'irai pas tailler des arbres aujourd'hui encore. Mais si c'est en fait le but de défendre ma vie, je serai à même de m'arranger.
C'est ce qui compte. À tous, est-ce que vous avez décidé de partager certaines informations ? Je pense à la lecture de cartes, je pense Chloé à une conversation avec Balian, je pense n'importe quoi. Isaac, ta nuit mouvementée. Est-ce que vous avez partagé des informations au cours du voyage, sachant que vous approchez du bosquet, ou pas ? À vous de me dire.
Perso, je pense que pour le tirage de cartes, vraiment, ça appartient à Gauvin, donc j'en aurais pas pipé un mot. Et par contre, ouais, je pense que j'aurais essayé de discuter un peu avec Balian, savoir si c'était passé après que je sois parti, etc.
Je pense qu'on peut le jouer un petit peu. Pas trop longtemps, mais on peut le jouer sur le chemin. Parce que t'as pu trouver un moment seul, on peut le jouer maintenant.
Ok.
Comment tu l'aurais abordé ?
Je sais pas, on se déplace comment en fait ? Parce que j'ai pas...
Vous marchez.
Rien, à un moment je l'aurais attendu et je me serais... Je sais pas, sûrement j'aurais attrapé son bras ou tu sais. Et je pense que vous avez pas mal de choses à me dire sur Chloé. Vous la cherchez ?
Oui, ça fait un moment maintenant.
Combien de temps ?
J'ai tout laissé tomber, ça fait plus de 8 ans maintenant que je suis à sa recherche.
Elle a disparu en même temps que moi ?
Et oui, et effectivement, le fait de te voir, ça me laisse en fait de l'espoir. J'en ai toujours eu, mais il est renforcé.
Tu vois que je me tends un peu quand tu dis que ça te laisse de l'espoir.
qu'est-ce qu'il y a. Enfin, ça a l'air de...
Ça a l'air Chloé de n'est pas partie avec moi. Elle a refusé de me suivre quand je l'ai... Juste le soir où le joueur de flûte est revenu, j'ai... Juste avant, je suis partie, j'avais ce pressentiment étrange que quelque chose de terrible allait arriver, et je suis allée la réveiller, mais elle n'a pas voulu me suivre, et je l'ai laissée derrière moi. Je ne sais pas du tout où elle est, Balian.
J'espérais que tu l'étais, enfin, que tu t'en saches plus. J'ai parcouru en fait pratiquement tout le pays, j'ai combattu en fait pendant la guerre, j'ai eu des rencontres avec en fait des personnes qui sont probablement encore moins recommandables que celles que tu connais, et à chaque fois en fait que... Mais non, monsieur, je fais référence en fait à celui qui a été extrait de la carriole.
Oui, bah, y en a certainement d'autres pires, mais vas-y.
Oui. C'est...
Mais non, tous plus gentils les uns que les autres, plein d'éthique.
Et à chaque fois qu'en fait je retrouvais la trace de ce joueur de flûte, et au moment où je pensais mettre la main sur lui, en fait, il disparaît. Enfin, ses traces disparaissaient et impossible de le retrouver. Et puis subitement, en fait, j'obtenais des informations, à savoir que en fait, il avait été vu à un endroit. Mais enfin, j'arrive pas à mettre la main dessus. Parce que clairement, si je mets la main dessus, il est préférable pour lui qu'il me dise en fait où se trouve Chloé. Sinon, je pense que son coup ne sera plus qu'en fait un simple tronc.
Tu la vois, tu vois que je fronce les sourcils. Mais vous n'avez d'informations que sur le flûtiste et pas du tout sur Chloé. Personne n'a pu vous dire s'il l'avait croisée.
Non, même
quoique
pas.
Si c'est comme pour les autres, effectivement, elle peut être beaucoup plus âgée que ce qu'elle n'a vraiment.
Oui, et... Même eux, en fait, a priori, ne l'ont pas croisé, mais toujours est-il que j'ai...
Vous voulez dire Gauvin et Stanislas et Isaac? Mais peut-être que Amarius et les autres les ont croisés.
Je ne sais pas. Pour autant, je sais, je n'ai qu'échangé avec eux. Et vraisemblablement, en fait. Même s'ils n'en ont pas le souvenir, je sais qu'effectivement l'un d'entre eux a côtoyé le joueur de flûte. J'espère en fait qu'à un moment donné, il pourra peut-être me donner plus d'informations.
J'espère pour vous. Je vous aiderai à retrouver Chloé si je peux.
Ouais, merci. J'ai été bien seul en fait durant toutes ces années.
Vous êtes le capitaine du Rutilant, de cet équipage, pardon. C'est Lothar qui te parle, Stanislas.
Ah, capitaine sans bateau, oui.
Ça doit vous faire bizarre, effectivement, d'être sur la terre ferme en compagnie de patrouilleurs de cette même terre. Surtout que si j'ai bien compris de ce que le Seigneur m'a dit... Disons que les eaux vous ont porté sur des sujets auxquels vous ne vous attendiez pas.
Non, effectivement.
Je ne vous aurais pas forcé à venir si ce n'était pas important, mais maintenant que vous êtes là, vous êtes impliqué. Et vous êtes capitaine d'un équipage, vous avez des amis. Vous devez savoir ce que c'est. Nous avons tous ici un profond respect pour le capitaine Vesper et le reste des hommes. Et nous avons besoin de vous pour les retrouver. Même si vous n'êtes pas en eau connue, des eaux bien différentes, j'espère qu'on va pouvoir compter sur vous.
Vous savez, le titre capitaine, c'est juste un titre. On est tous égaux, tous les trois. Il n'y a pas vraiment de chef, simplement le bateau est à moi. Mais on est tous égaux dans l'histoire.
Pour les trois.
Tout à fait.
Et le bûcheron et la fille. Elle a l'air bien jeune d'ailleurs.
Des acolytes rencontrés en chemin.
Décidément. Ici à Contrebois et à Mornejour en général, il semble que de nombreux destins se soient croisés et cela continue. Je ne suis pas sûr que c'est pour le meilleur.
C'est ce que je me dis depuis que ces choses nous ont attaqués.
Si vous saviez. Nous en avons vu. Des choses abominables. Et rien pourtant qui corresponde à ce que vous nous avez décrit. C'est ce qui m'inquiète. J'espère que nos armes suffiront. Et tu vois que sa main effleure derrière lui les flèches qui sont dans son carquois. Et c'est assez étrange parce que certaines des flèches ne sont pas disposées la pointe vers le bas, mais vers le haut, ce qui n'a aucun sens, parce que c'est pas du tout pratique. Mais au bout de cette... certaines de ces flèches, assez peu d'ailleurs dans un carquois, sinon ça ne tiendrait pas, il y a des fioles qui sont attachées aux flèches. Et à l'intérieur, une poudre dorée flotte, qui ressemble à celle que Delumiel a pu te montrer dans la marchandise.
D'accord. Et c'est quoi ces flèches étranges que vous avez ?
Il en sort une, avec la fiole. Celle-ci a tendance à étourdir, gêner. On ne sait pas vraiment, mais en tout cas, ça nous donne un avantage contre les créatures de l'engeance, contre l'engeance en général. C'est une distraction. Ça les éblouit, ça les étourdit, que sais-je. Ça les gêne, c'est ce qui compte. Il en sort une autre, qui elle était bien pointe vers le bas, comme toute flèche classique. Et il te la montre, et il te montre la pointe. La pointe semble être dans un alliage d'acier, mais un peu teinté de pourpre également. C'est solide, hein, complètement. Et c'est un alliage un peu différent. Et ça, ça leur fait très mal. Pas autant qu'on le voudrait, mais ça nous permet d'avoir une chance.
Vous êtes en train de me dire que nos armes conventionnelles ne servent à rien contre eux ?
Pas à rien. Et contre ces choses, on a besoin d'avantages. Ne servent pas à rien. La plupart des combats se mènent avec des armes conventionnelles. Mais nous, les patrouilleurs, on a un rôle spécial à jouer. Puisque l'engeance est souvent, en tout cas chez nous, se terre dans le bois aveugle. Nous bénéficions des quelques armes, quelques ressources qui sont mises à notre disposition.
Tiens. Comment vous obtenez ces armes, comme vous dites ?
Jette un œil à tes compagnons. Je pense que nous approchons. Enfin, nous sommes en tout cas en bordure du bosquet de Valérian. Concentrez-vous et dites-moi si vous reconnaissez le lieu où vous avez abandonné les restes du chariot.
Juste une chose, si jamais ces créatures attaquent, c'est-à-dire qu'il faut qu'on attende que vous les blessiez avec vos armes avant de faire quoi que ce soit ?
Si c'est nous qui avons l'avantage, c'est mieux. Sinon, faites comme n'importe qui d'autre. Vous vous défendez. Et on s'organise, si on le peut. De toute façon, nous agirons avec célérité pour bénéficier de ces armes. Le reste, il finit pas sa phrase. Et puis, finalement, il se retourne vers toi et te dit « En bref, il faut faire gaffe. »
Va chier.
J'ai pas pu m'en empêcher.
Donc du coup, on est d'accord que il me demande de retrouver des traces alors que c'est lui le meilleur de nous deux pour faire ça.
Non, c'est juste que toi, tu sais, tu peux reconnaître l'endroit.
D'accord, ok. Il faut que je fasse un jet de...
Non, t'inquiète. Effectivement, je dirais une bonne presque 40 minutes plus tard, de marche. Vous reconnaissez tous d'ailleurs les lieux puisque vous passez devant le petit bosquet dans lequel vous avez bivouaqué. Et dans lequel il s'était passé des choses d'ailleurs.
Bah justement, si on passe dans ce bosquet-là, je récupère le...
Non.
Je récupère
non,
le truc.
Non. Non, va chier, je vais le chercher d'abord.
Je suis en premier pour chercher des traces, hein.
Non, je cours avant. Si tu veux, on se la joue au dé, mais je passe d'abord.
Qu'est-ce que vous décidez, on se la joue au dé ou...
Ah, mais moi je
non.
récupère.
Si
je...
Non.
Si je récupère, je lui donne, je m'en fous.
D'accord.
S'il si te le donne, grand, ça te va qu'il le récupère ?
Ça me va, si on va le chercher ensemble.
Ok. Du coup, est-ce que tu peux préciser quand même ce que tu vas chercher ?
La fameuse pique à cheveux qui a été sur ma gorge et qui a manqué de me tuer.
D'accord.
Tu remercieras Déméter, c'est un cadeau qu'elle m'a fait.
Ah, quelle géniale cette femme.
Est-ce que tu lui dis à Chloé quand tu lui rends ?
J'espère que ce sera mieux utilisé la prochaine fois. Et je lui rends.
Je fais un grand sourire, bien entendu.
Et contre les bonnes personnes ou choses.
Toujours.
Un peu plus tard, vous n'avez pas besoin de savoir pister pour reconnaître les lieux. Les restes du chariot sont encore là. Ils ont été écartés, vraisemblablement, de la route, sans doute pour libérer le passage, mais ils sont à quelques mètres.
Il y a toujours les restes des chevaux.
Des traces des restes, si j'ose dire. Mais peut-être que des charognards ont déjà commencé à se repaître.
On est d'accord qu'on a contourné le village hein, pour arriver jusque-là.
Tout à fait. Ouais, okay. Lothar fait signe aux patrouilleurs afin qu'ils établissent une sorte de périmètre. Ils commencent à se disposer. Ils sont une dizaine. Hein. Bon, j'imagine que c'est là. Il y a encore quelques corps démembrés. C'était une question très rhétorique. Mais néanmoins, il attend une réponse quand même.
C'est bien ici, oui. Il
fait signe à deux des patrouilleurs de l'accompagner. Et il vous fait signe à tous de le suivre. Et là, il commence à inspecter.
Bah du coup, en même temps, je parle doucement et je lui explique par où sont parties les créatures, combien et tout ça, les traces que j'ai vues.
D'accord. Ça veut dire que les personnes qui n'ont pas été tuées ici ont été emmenées dans le bosquet dans cette direction, c'est ce que vous dites, Stanislas ?
C'est ça.
Ça veut dire qu'on va devoir aller dans le bosquet. Mais... vous avez parlé de Mirande, du village, qu'ils vous ont piégé.
C'est ce qu'on en a conclu.
D'un côté, le temps presse. Les patrouilleurs ont disparu. Il faut se hâter et il fait encore jour. D'un autre côté, si ce que vous dites est vrai... si vous pensez qu'il y a quelque chose d'étrange à Mirande, je me demande si on ne devrait pas y aller pour savoir ce qui se passe avant de foncer tête baissée dans la gueule du loup. Vous n'avez vraiment aucune autre information et il parle plus fort pour que vous tous vous puissiez l'entendre si jamais vous avez envie d'intervenir.
Du coup, il dit quoi ?
Il demande vraiment est-ce que vous n'avez pas d'autres informations, d'autres choses qui pourraient l'aiguiller, à part... simplement le fait que des créatures sont venues, sont parties dans le bosquet, et qu'il y a un village qui vous aurait piégé.
Oui, bah
du coup... On avait vu du sang dans la grange ou quelque chose
oui, ou pas oui, on avait vu du sang dans la grange. Mais c'est dans le village maudit qu'on a vu le sang.
Oui, c'est ça.
Parce que du coup, il faudrait que je lui indique, je sais à peu près où il est le village maudit, entre guillemets.
Oui, vous pourriez retrouver les deux,
on
là.
Vous connaissez.
Bah, je lui indique là où on les a trouvés, les deux... les deux créatures qui semblaient errer dans le village, maudit. avec du sang dans la tête.
Et à part ça, rien d'autre dans le village abandonné? Personne?
Vous voulez dire à part deux monstres qui avaient vraisemblablement été accrochés à deux autres personnes? Non, pas trop. On n'a pas eu le temps de s'éterniser, hein.
D'accord. Et au village, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Vous, Balian, vous avez été traité par ces villageois. Vous avez remarqué quelque chose de particulier? Quelque chose qui sortait de l'ordinaire?
Ouais, enfin, ils étaient plutôt assez inquiets, mais à part ça, ils se sont méfiés de nous aussi.
Ils étaient inquiets ou nerveux?
Ouais, ils étaient terriblement méfiants.
Il y avait un enfant qui apparemment était convaincu que ses parents étaient dans le village.
Oui, c'est un peu à cause de lui si on y est retourné et que du coup on a failli y rester.
Comment ça, à cause d'un enfant? À cause de lui?
C'est lui qui a convaincu en fait les autres, grosso modo, que ses parents étaient dans le village là-bas et que... Alors certes, on a vu une...
Non. Pardon, vas-y, continue. Enfin,
c'est l'impression que j'ai eue. Donc, il a réussi à convaincre que ses parents étaient toujours dans le village là-bas. Et donc, du coup, on a voulu vérifier que effectivement, eux n'avaient pas l'âme à aller voir dans le village de quoi ils retournaient. Bon, quand on s'y est rendu, effectivement, je dirais de toute façon, en termes de combat, on n'était pas forcément en fait en position de faire quoi que ce soit.
D'accord.
Et si c'était effectivement l'enfant qui était responsable entre guillemets de tout ça, comme tu la laisses penser, notre guide ne nous aurait pas abandonné. Pour moi, tout le village est ensemble et ils se servent de cette histoire et de cet enfant comme d'un prétexte pour adoucir les cœurs et inciter les étrangers ou les patrouilleurs à se rendre au village maudit pour enquêter.
Enquêter ou les sacrifier?
Oui, c'est un sacrifice.
En théorie, vu en fait mon état et vu la forme dans laquelle on était,
on savait très bien qu'on avait aucune chance.
Exactement. Donc, comme je te dis, moi, pour moi, c'est plutôt envoyer en sacrifice plutôt que à enquêter.
Ils ont aussi parlé d'une malédiction qui a touché le village abandonné.
Ouais, la malédiction de Valérian. On connaît tous.
Oui, mais enfin, la forêt quand même était plutôt tranquille. Ça nous est arrivé d'aller découper un arbre ou deux. Mais l'objectif était de sélectionner quelques arbres là-bas et on n'a jamais eu de soucis.
Pas au bosquet, non, c'est bien ce qui m'inquiète, mais quand vous me parlez de... Je vous entendais dire... Sacrifice, enfant, ça me fait vraiment penser à ce qui se passait lorsque l'engeance commençait à se répandre dans l'autre bois, dans le bois aveugle. Des villageois avaient commencé à vouer un culte à l'engeance, peut-être plus par peur qu'autre chose, mais c'est comme ça que ça avait commencé. Vous vous souvenez comment s'appelait cet enfant?
Non. Je ne me souviens pas.
Je vous autorise un test d'esprit à tous, si vous voulez. Difficulté 6.
Damned.
C'est un jet de quoi? Juste volonté?
Esprit.
Plus Chloé, tu devrais t'en souvenir, tu avais fait un commentaire sur son prénom. Tu le plaignais.
Oui, mais ça, c'est quasiment... À chaque fois que tu nommes un PNJ, je perds un peu du sang pour lui à chaque fois. Ouais, Gilbert aussi.
Je crois qu'on aura du mal à s'en souvenir.
C'est quoi du coup le G? C'est normal?
Ah là,
c'est
là, là, là.
Ça dépend de tes attributs.
Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que ça. Désolé.
On n'a pas fait mieux. Hein.
Okay. Ça oscille entre 2 et 5 hein, quand même.
Vous voulez dépenser un point de détermination?
Non.
Pour faire quoi? Pour faire 6?
Non, je déconne. Ne le faites pas. Bon.
On a le droit de reprendre nos notes ou pas?
Et oui, bien sûr, si tu as des notes, si tu peux y aller. Noté. Si tu l'as noté, bien sûr. Bon. Est-ce que vous pensez que si on y va, il vaut mieux qu'on les menace directement pour avoir des réponses, ou est-ce que vous pensez qu'ils pourraient ne pas être hostiles si on arrive comme ça sans les pointer du doigt, nécessairement? Est-ce qu'ils sont disposés à votre égard? S'ils vous ont, ils ont voulu vous sacrifier, sans doute pas.
Ils sont disposés,
à nous sacrifier.
Mais peut-être qu'il serait plus malin de les approcher avec un angle différent, non? Simplement d'y aller en posant des questions, en demandant ce qui s'est passé, et si c'est une première, et puis en fonction de leur réaction, éventuellement avoir une approche plus brutale.
Vous avez eu un bon contact, vous, madame, avec eux? Vous avez eu un...
Non, mais je ne m'étais pas vraiment préparée à avoir un bon contact avec eux. Je peux y travailler maintenant, si vous le voulez.
Le fait qu'ils vous connaissent, si éventuellement vous pensez que vous pourriez arriver à réussir à leur faire croire que vous ne les accablez pas, que vous ne les accusez pas, pourquoi pas? En revanche, vous accompagneront quoi qu'il arrive. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. J'ai besoin que lorsqu'on rentre dans ce bosquet, on sache ce qui nous attend et pourquoi.
Vous voulez savoir s'ils sont au courant pour les créatures?
Entre autres, et s'ils sont au courant, qu'est-ce qu'ils savent?
Mettons-nous aux abords du village, attendons la nuit, et mettons-nous à pleurnicher comme elles ont fait. Si vous les voyez courir dans tous les sens, vous êtes sûr qu'ils savent de quoi il s'agit?
Ils peuvent savoir sans...
J'ai pas envie d'attendre la nuit. Il faut qu'on agisse ensuite. On a des gens à retrouver. S'ils sont là-dedans, je ne sais même pas ce qu'on va retrouver, à vrai dire. Bon, allons-y. Allons, Miranda.
J'ai un petit peu peur de la question, enfin de la réponse que j'avais posée, mais est-ce qu'il y a un risque que les personnes qui ont été emmenées, on les retrouve à l'intérieur d'arbres qui marchent?
Sans doute, je ne vais pas vous mentir. Mais ce n'est pas certain. Certains résistent plus à l'engeance. Nous avons des moyens pour juguler d'éventuelles contaminations. Et parfois, l'engeance utilise les humains pour se reproduire. Enfin, je ne sais même pas comment... Inutile d'en discuter pour l'instant, c'est...
Si nous allons à Mirande, peut-être serait-il judicieux que pour le moment on ne se montre pas. Vous pouvez poser des questions et voir si ils essaient de vous sortir le même piège que pour
Je n'ai pas envie de tourner autour du pot, je ne suis pas là pour ça. Nous allons venir, si vous pensez pouvoir leur tirer les vers du nez de manière pacifique, nous serons là en support. Et si jamais... Si jamais ils tentent de mentir, nous saurons les passer par le fil de l'épée si nécessaire pour avoir des réponses. Je ne tergiverserai pas quand la vie de nos hommes est ainsi mise en danger, surtout s'ils sont vraiment impliqués. Allons-y.
Bien.
Fais signe à ces patrouilleurs. Prenez la route et vous finissez par arriver à Mirande. C'est le village... tel que vous l'avez quitté, même peut-être différent, puisqu'il fait jour, enfin jour. Il fait gris et morne. Bien sûr, c'est l'automne. Il a plu la veille, le sol est humide, le ciel est gris, sombre. Mais il fait tout de même jour, donc le village est un peu plus actif que la dernière fois. Vous arrivez dans le village. Les patrouilleurs ne cherchent pas à être discrets.
Juste avant qu'on aille dans le village, j'aimerais dire un truc.
Vas-y.
J'espère que vous vous êtes préparé, Chloé.
Préparé à quoi?
Si ça tourne mal, on sera obligé de tuer des gens.
Mais ça vous connaît, non? Et elle te fait un petit clin d'œil.
Mais là, vous serez fortement lié à cette affaire. C'est que vous auriez probablement échoué. Pour parler.
Ah! Je vais pas répondre. tu as avancé.
Parfait. Vous êtes remarqué. Les activités s'arrêtent. Les villageois attendent. Ils ont l'air inquiets. Certains se regroupent, mais assez peu en vérité. Les patrouilleurs commencent à se placer à des endroits stratégiques. Ils sortent leurs arcs.
On n'avait pas dit qu'on y allait pacifiquement d'abord ?
Si, si. Mais ils sortent leurs arcs néanmoins. Mais ils font rien. Ils se commencent à se disperser. Patrouilleurs de contrebois, nous sommes là pour nous renseigner. Vous ne craignez rien. Nous pensons que vous avez pu avoir des informations. Certaines personnes s'avancent et Lothar vous fait un signe si jamais vous voulez prendre la main.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on... Pardon.
Non, non, vas-y.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on reconnaît Il me semble que j'avais... Enfin, tu sais que je m'étais... Que j'avais donné de l'argent à quelqu'un. Est-ce que je reconnais quelqu'un qui était là
c'est,
ce soir-là?
C'était le guide.
C'est celui qui vous a lâchement abandonné, oui. Il est là.
C'était au guide que... Il est là ?
Oui, il est là, tu le reconnais, il t'a pas encore vu, lui. Vous êtes au milieu des patrouilleurs, vous êtes habillés différemment. Ils vous ont pas reconnu.
Ce que je vais faire, c'est que je vais me tourner vers... je sais pas, vers Go. Non, c'était pas fort. Bon, laisse tomber. Je vais me rapprocher de lui. En fait, je vais lui faire un... Enfin, je vais me rapprocher de lui, oui. Juste me rapprocher. Mais... Vous êtes vivant ?
Et tu vois qu'il lui faut un petit temps. Il a pas compris tout de suite. Oui. Et là, il te reconnaît. Et il regarde autour de lui. Comme...
Mon Dieu, mais j'étais persuadée. Nous étions persuadés. Je montre les trois autres. Nous étions persuadés que vous étiez mort. Qu'il vous avait emporté. Comment vous êtes-vous sorti de ça ?
Est-ce que tu peux me faire un test, s'il te plaît, de charisme et d'éloquence ? Difficulté 8.
Oh, sérieux ? Ah. Ok, alors... Charisme et éloquence.
Est-ce que je peux lui filer un petit coup de main ?
Non.
Bon, elle n'a pas besoin.
Ça passe,
elle
est tranquille.
Elle n'a pas besoin. Tu sens qu'il a l'air comme... rassuré par ce que tu lui dis, soulagé plutôt. Oui, j'ai réussi à m'enfuir. Je vous ai averti, mais comme vous n'avez pas dû m'entendre, et je vous avoue, j'ai eu un peu peur, j'ai eu peur. Excusez-moi, je suis désolé. Et regarde en direction de tes compagnons par-dessus ton épaule. Tout le monde va bien, et tu vois que il s'interroge vraiment, en fait. Il est même étonné. Il n'arrive pas à cacher son sincère surprise.
Du coup, ce qu'il voit derrière l'épaule de Kaku, c'est Gauvin en train de fouiller dans son sac, en sortir plusieurs torches, en tendre une à Stanislas, à Isaac, et commencer à les allumer.
du coup,
en
je
plein
me
jour,
me
c'est bizarre.
Je vais me rapprocher de lui, je vais attraper ça. Enfin, je jette un coup d'œil derrière, je vois ça du coup. Et je vais du coup me rapprocher de cet homme dont j'ai encore pas de nom. Et attraper sa main en disant « Oui, nous allons très bien, c'est... » Enfin, certainement pas grâce à vous, vraisemblablement, mais... mes amis ici présents sont persuadés... Et je serre un peu plus sa main, qu'il s'agissait d'un piège de votre part.
Et quand elle finit de dire ça, je prends une hache de jet et je commence à me curer les ongles avec.
Il y a Lothar qui vient se poster à côté de Stanislas, qui fait un signe aux patrouilleurs, et les patrouilleurs commencent à se rapprocher et à faire en sorte que les gens se rapprochent aussi.
Mais moi, personnellement... J'ai cœur de penser que l'humain est bon et que vous n'êtes pas de ceux qui vendraient des pauvres gens pour, je ne sais pas, servir de nourriture à des monstres.
Et t'as parlé assez fort, et on peut dire qu'en plus t'as été très 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 convaincante. Tu es épaulée par tous les patrouilleurs qui commencent à ramener les villageois au centre, tout autour de vous. Là, les activités ont cessé, les villageois semblent avoir peur, ils sont maîtrisés de manière pacifique pour l'instant, mais ils sont encouragés à se rassembler. Et il y a une autre personne que celui à qui tu parles, Chloé, qui s'adresse à toi. Une femme, quarantaine d'années.
Oui, je me souviens.
Il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien, il ne fait que ce qu'il doit. Elle se tourne vers les patrouilleurs. Nous n'y sommes pour rien. Et là, il y a tout le monde qui commence à faire, ouais, non, nous n'y sommes pour rien. On peut vous expliquer. Il y a
Eh
Lothar
bien,
qui
allez-y.
s'approche. Non, non, vas-y, 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 je t'en prie, t'as la main.
D'accord. Allez-y, expliquez-nous. Pourquoi vous nous avez envoyés? Qui vous a demandé de nous envoyer?
Et là, j'ai enfin allumé ma torche. Et j'ai surtout combien de personnes vous avez envoyées là-bas.
Il y a Lothar qui se
Très pacifique.
rapproche et qui regarde Gauvin. Mon ami ici a très envie d'allumer cette torche. Alors évidemment, nous sommes des patrouilleurs, nous protégeons les habitants de Mornejour. Alors j'ai vraiment envie de le décourager. Lui et ses amis qui visiblement ont été victimes des bons habitants de Mirande. Mais vous comprenez, des amis à moi, patrouilleurs également, ont peut-être subi les conséquences de votre malice. Par conséquent, je ne suis pas sûr de vouloir honorer le code protecteur de Valérian ici. Vous semblez l'avoir trahi. Celui à qui tu parlais, Chloé, est complètement rabougri. Il est un peu
Ah non, je
prostré.
m'adressais à la femme, pardon.
Non, j'ai bien compris. Mais justement, c'est pour dire que lui, il s'écarte complètement, il se désolidarise du groupe. Enfin, il est maîtrisé, mais il n'est plus celui, n'est plus un interlocuteur et lui-même ne se considère plus comme tel. Et la femme dit, écoutez, je dois vous avouer, mais je sais que nous avons entendu les rumeurs que. Qui disait que les monstruosités avaient été vaincues dans le bois aveugle, mais nous avons été laissés pour compte à Mirande. Nos enfants ont été pris à partie par le mal. L'un des enfants, avec ses parents, était allé dans la forêt pour prendre du bois et lui seul est revenu. Et il nous a parlé au nom de des choses de la forêt, et nous avons su qu'il n'y aurait plus personne pour nous protéger. Nous avons fait ce qu'il a dit. Il n'y avait pas de patrouilleurs à ce moment-là, personne pour nous aider. Notre village aurait été réduit à néant si nous n'avions pas fait ce qu'il a dit. Lui-même n'est pas responsable. Je vous assure, nous ne l'avons fait que pour survivre.
Attendez, l'enfant,
Comme
c'est
pour
celui.
Valérian.
Je n'y peux rien dans cette histoire. C'était il y a des siècles. Des décennies, que sais-je? Je vous assure. Et là, elle parle à Lothar. Pardonnez-nous, mais nous ne savions pas que vous viendriez. Vous étiez tellement retenu ailleurs. Mais le mal nous a touchés, nous aussi, et nous avons dû plier le genou.
Mais
Je sors.
l'enfant dont, pardon.
Excuse-moi. Je sors une deuxième hachette et je m'approche et je dis, parlez de cet enfant.
Est-ce que moi je peux faire un jet pour voir si elle a l'air sincère ou pas?
Ouais, ça sera filouterie et esprit. Je te donne pas la difficulté du coup.
Filouterie, j'ai rien du tout. Esprit, j'ai un D8. Huit.
Elle a l'air sincère, mais tu sens qu'il y a, tu détectes pas les signes du mensonge, mais elle en rajoute un peu quand même.
Du coup, je me tourne vers Lothar, je lui dis, elle a l'air visiblement sincère, mais disons que il n'y en fallait pas beaucoup pour justifier son acte. Elle n'attendait qu'une bonne raison.
L'enfant, où est-il? Il n'est pas plus responsable que nous, lui encore moins. Je ne lui ferai rien, ce n'est pas pour l'accuser que je souhaite le voir. Et Lothar a un regard en direction des patrouilleurs. Vous voyez que dans leur regard, ils se comprennent. Ils ont l'air de comprendre pourquoi Lothar veut voir l'enfant. Faites venir l'enfant. Bien. Elle envoie le gars qui s'était prostré là, à qui Chloé parlait précédemment. Un petit mouvement, il est accompagné par deux patrouilleurs. Et il s'éclipse.
Ça a commencé il y a combien de temps cette histoire?
Quelques semaines. Peut-être presque 2 mois.
Et combien de personnes vous avez envoyé mourir comme vous nous avez envoyé nous?
Je ne sais pas exactement.
Vous ne tenez pas les comptes? Cela vous importe assez peu pour que vous l'oubliez?
Si vous étiez à notre place, vous auriez fait pareil. Nous aurions tous été exterminés. Nos enfants auraient pu mourir. Ils auraient été exterminés.
Vous êtes une idiote.
C'est vous l'idiote. Vous ne savez pas de quoi vous parlez.
Silence! Et je la pointe avec la hachette. Maintenant, la question qui fâche. Est-ce qu'il y a d'autres patrouilleurs qui sont venus avant ici et que vous avez expédié en chair à canon, en sacrifice?
Ils étaient là pour savoir justement ce qu'il en était des disparitions. On ne leur a rien dit. On leur a juste dit que on les a pas envoyés. On les a pas envoyés au village, je vous assure.
Je cherche à savoir si elle ment ou pas.
Attends, tu pourras.
Ça va finir.
On va terminer déjà. On leur a juste dit qu'on entendait parfois des choses dans le bosquet, qu'on évitait maintenant d'y aller le plus possible alors qu'on ne le craignait pas avant. C'est tout ce qu'on leur a dit, ce qui est la vérité d'ailleurs.
Attendez, mais ça...
Mais donc quand l'aide est arrivée, vous avez décidé de ne pas leur demander d'aide?
C'est exactement ce que je voulais dire.
Je crois qu'on était trois, ouais.
Je crois que Lothar vous regarde... semble apprécier la pertinence de vos propos et il a un regard noir en direction de la femme et des autres villageois. Vous voyez que dans le regard des patrouilleurs, il n'y a aucune compassion.
Du coup, moi, je me retourne vers la plaine qui est un peu plus loin et je dis, je crois que le troisième village de Mirande, il va se trouver à peu près par là. Quand celui-là, il aura complètement cramé.
Du coup, clairement, elle mentait, enfin... Elle a essayé de camoufler la vérité, ou... Enfin,
vas-y. Je peux faire un jet. Ouais, tu peux faire un jet, tu fais esprit et filouterie.
Esprit, c'est normal, et filouterie, plus 3, ok.
Mais du coup, elle justifie pas le fait qu'elle en ait pas parlé aux patrouilleurs.
9.
Non. en fait, ça rejoint un peu l'observation de Gauvin tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle a pas l'air de mentir, elle ment pas, mais... Elle croit dur comme fer, elle justifie son acte. Et elle a beau faire ses grands airs, elle a pas l'air de s'en émouvoir beaucoup. Et commence à approcher les deux patrouilleurs et deux personnes qui amènent un enfant que vous reconnaissez, vous l'aviez vu malgré la nuit. Le dénommé Jacob, il doit avoir 9 ans.
De la fond.
La question c'est, il a 9 ans depuis combien de temps?
2 mois déjà, c'est sûr.
Et donc, Il s'approche avec les autres. Il n'y est pour rien, je vous l'ai dit. Silence, je n'ai pas dit que je lui ferais quelque chose. Lothar se tourne vers vous. Je vais vous demander de vous écarter un petit peu. De quelques mètres.
Est-ce que avec sixième sens, je peux sentir s'il va y avoir quelque chose ou...
Ça veut dire quoi, ça, qu'il va y avoir quelque chose... Avoir un mauvais pressentiment, ouais, tu peux avoir un mauvais pressentiment. Mais ça veut dire qu'il va se passer quelque chose, ça veut dire que tu le sens pas, ce gosse-là.
C'est oui, pas non, une mais... seconde nature chez Stanislas.
Sport mais... de sa vie. Ouais. Oui, non, mais...
Mais non, vas-y, dis.
De toute façon, Lothar dit déjà de faire gaffe, donc...
Non, mais en fait, en gros, je voulais savoir si Lothar allait représenter un danger ou pas.
Ça, c'est quand même difficile à dire, là. C'est plus que sixième sens, là, c'est divination. Donc, t'as un mauvais pressentiment, ça, c'est sûr, mais c'est pas forcément un truc qui va se passer. Ça peut, hein. Mais t'as clairement un mauvais pressentiment. Il vous demande de vous écarter un peu. Ainsi qu'à... Et les patrouilleurs s'écartent aussi. En faisant s'écarter aussi les villageois. De quelques mètres.
Moi, je vais m'écarter, mais avec la femme...
D'accord.
Enfin, je vais rester derrière celle qui nous a...
Je m'écarte en restant proche de Gauvin et Stanislas.
Parfait.
Du coup, j'ai tendu ma torche à Isaac et j'ai chargé mon arbalète.
Tu peux garder ta... Alors... Oui, bon, je te la tiens, si tu veux. Alors, moi, je m'écarte aussi, mais je reste avec un angle de tir possible avec ma hache de geste, si besoin.
D'accord. Valiant.
Je me tiens prêt.
J'imagine le gros bourrin avec sa hache.
Ah, je suis prêt à saucissonner un arbre, là.
Il n'y a qu'un petit enfant, juste ça. Lothar s'approche de lui.
Et les adultes, ils sont où?
Ils sont là, mais ils se sont écartés.
Ah oui, Lothar, c'est préférable.
Lothar s'approche de l'enfant. Et il a l'air de... Il le regarde et il lui parle. T'inquiète pas, mon garçon. Comment t'appelles-tu? Jacob. Il répond pas comme un enfant. Enfin, c'est une voix d'enfant, hein, mais... Quel âge as-tu, Jacob? L'enfant ne répond pas. Est-ce que tu es bien Jacob? Oui, c'est moi. C'est mon nom. Vous ne devriez pas être là. Vous faites une erreur. Il regarde vraiment, il fixe Jacob droit dans les yeux. Et puis il se relève, Lothar. Et il se retourne vers vous et il marche dans votre direction. Ses yeux sont injectés de sang noir. Il est contaminé. Et alors que Lothar marche dans votre direction, vous voyez qu'il se passe quelque chose. L'enfant porte ses mains à sa bouche et les encastre à l'intérieur. Il tire violemment sur sa mâchoire inférieure et celle-ci se décroche. Elle emmène avec elle un liquide noirâtre qui se déverse par terre. Et alors, de la cavité buccale émerge un entrelacs organique qui, sortant, sépare la tête de l'enfant en deux. La matière cérébrale se déverse et la matière organique se déploie brusquement en une nuée de bras enfantins recouverts d'écorce et de petites griffes acérées sur toute leur surface. L'amas de membres s'écarte brutalement, tandis que le reste du corps de l'enfant se déchire et laisse apparaître le corps fluctuant d'une aberrante masse informe dont l'abdomen noir se fend horizontalement pour s'ouvrir sur une gueule béante qui vomit un abject mélange de sève et de branches. Soudain, les lianes s'étirent comme des fouets dans toutes les directions.